vous reprendrez bien un peu de classique.
Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui faire la connaissance de deux compositeurs. Le premier, c'est un compositeur russe. Il s'appelle Alexandre Glazounov et il est né en août 1865 à Saint-Pétersbourg et il est décédé en mars 1936 à Neuilly-sur-Seine. Glazounov est issu d'une famille aisée. Il manifeste très tôt un talent pour la musique, encouragé par sa mère, qui elle est pianiste. À l'adolescence, il reçoit des leçons de composition d'un autre grand compositeur russe, Nikolai Rimsky-Korsakov. Et ça va marquer sa formation musicale, la figure de Rimsky-Korsakov. Glazounov fait partie de la tradition du romantisme russe, mais il intègre aussi des influences cosmopolites. Au cours de sa carrière, il a produit une vaste œuvre symphonique qui comprend 8 symphonies complètes, une 9e inachevée. Et il a composé aussi de la musique pour ballet, des concertos et autres pièces pour orchestre. Glazounov a aussi joué un rôle important dans l'enseignement et l'instruction musicale russe. A été professeur au conservatoire de Saint-Pétersbourg à partir de 1899, où il a enseigné la composition et l'orchestration. En 1905, il en devient le directeur et il occupe cette position jusqu'en 1930. Et à la suite de la révolution bolchevique, il transforme cette institution en conservatoire de Leningrad, Saint-Pétersbourg qui a changé de nom. Sous sa direction, de nombreux compositeurs émergents, influencés par les changements sociaux et artistiques de l'époque, ont bénéficié de son enseignement. Glazounov a voyagé pas mal en Europe occidentale et il a rencontré des figures importantes dans la musique de l'époque, notamment, comme beaucoup de compositeurs et musiciens de l'époque, il a rencontré Franz Liszt. Et sa musique est quand même restée ancrée dans le romantisme tardif. Ses compositions continuent à être encore aujourd'hui interprétées dans le monde et sont appréciées pour leur profondeur expressive. Comme je vous ai dit, Glazounov a visité l'Europe et aussi les États-Unis en 1928 et en 1929, il s'est installé à Paris. Il a toujours prétendu que la raison de son absence prolongée de Russie était due à sa mauvaise santé. Ceci lui a permis de rester un compositeur respecté en Union soviétique, contrairement par exemple à Stravinsky et Rachmaninov, qu'il avait quitté pour des raisons peut-être identiques, mais aussi politiques en tout cas. D'Alexander Glazounov, je vais vous faire écouter, pour commencer, deux mouvements de sa symphonie numéro 3, opus 33, le troisième mouvement andante et le quatrième finale allegro moderato dans l'interprétation de la Royal Scottish National Orchestra dirigée par José Cerebrier. Et maintenant, pour terminer la découverte de la musique de Glazounov, le premier mouvement andante sostenuto de son concerto pour piano numéro 2, opus 100, dans l'interprétation d'Alexander Romanovsky au piano et la Russian National Orchestra, dirigé toujours par le même chef, José Serebrier. Nous passons maintenant au deuxième compositeur. Il s'agit de Christoph Willibald Gluck, compositeur de la période classique, qui est né en Bavière, à Erasbach, donc en Allemagne actuelle, en juillet 1714, et qui est mort à Vienne, en Autriche, en novembre 1787. La famille de Christoph Willibald est originaire du Haut-Palatinat bavarois. À sa naissance, son père, qui s'appelle Alexander, est militaire au service des princes de Lobkowitz. En 1717, la famille de Gluck quitte Erasbach et s'installe en Bohême, où son père exerce la fonction de maître des eaux et forêts, qui est la profession traditionnellement exercée dans la famille Gluck. Le père de Christoph Willibald travaille donc pendant plusieurs années aux dépendances de différentes familles nobles de la région, parmi lesquelles certaines très importantes, comme le duc de Lobkowitz. Et donc il déménage aussi dans plusieurs petites ou moyennes villes. Pour ce qui concerne Christoph Willibald, il montre depuis son plus jeune âge de bonnes dispositions pour la musique. Et à Kreibitz, une autre ville où ils ont résidé, il suit les premières leçons de musique et apprend le violon. Son intérêt pour la musique va alors croissant. Son père n'aurait pas voulu qu'il fasse une profession dans la musique musicale. Il aurait souhaité qu'il fasse le même métier que lui, comme quelque chose de traditionnel dans la famille. Donc, en 1731, Gluck s'inscrit à la faculté de philosophie de Prague. Mais, en même temps, il continue pendant cette période sa formation musicale. Ensuite, il se réconcilie avec son père, avec qui il s'était brouillé pour cette histoire de profession et d'engagement. Et donc, il se rend à Vienne, où il rentre au service du prince Lobkowitz en 1736. C'est l'époque pendant laquelle le goût musical viennois s'oriente vers l'opéra seria italienne, sous l'impulsion de l'empereur Charles VI. Du coup, Gluck décide de se rendre en Italie en 1736 afin de se perfectionner dans ce domaine. Il y est accompagné par le prince lombard Antonio Maria Melzi, avec qui il s'est lié à Vienne. Ce prince lombard décide de recruter, si on peut dire, Christoph Willibald pour sa chapelle privée à Milan. Et il le met en relation avec un compositeur très connu de l'époque, Giovanni Battista Sammartini. C'est à cette époque que Gluck commence à composer ses opéras. Le premier, c'est Artaserse, qui est présenté à Milan en décembre 1741. Plusieurs autres opéras seront composés dans les différentes villes d'Italie que Christoph Willibald va visiter successivement. Venise, Crème, encore une fois Milan, Turin. Il reste en Italie jusqu'en 1745, année où il part pour Londres. Il donne à Londres différents opéras et il fait pendant ce séjour la connaissance de Handel et se lie aussi avec le compositeur Thomas Arne. À la fin de l'année 1746, Gluck quitte l'Angleterre et retourne en Allemagne. Il se fait engager à ce moment-là dans la troupe ambulante d'opéra italien des frères Mingotti, avec laquelle il entame une tournée européenne de 3 ans. En 1748, Gluck reçoit la commande d'un opéra pour Vienne. Il compose donc la Semiramide Riconosciuta, qui est jouée en mai 1748 avec un bon succès. Entre-temps, la troupe continue sa tournée à Hambourg et puis à Copenhague. À la fin de l'année 1752, Gluck s'installe définitivement à Vienne. Il jouit alors d'une renommée internationale et reçoit des commandes de l'étranger. Pendant les années qu'il passera à Vienne, c'est important de noter que en octobre 1762, il présente son opéra le plus connu, Orfeo et Euridice. Pendant ces années-là, Gluck est aussi professeur de clavecin de l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Antoinette, future reine de France. Et elle lui accordera sa protection quelques années plus tard, lorsqu'il sera à Paris, où il arrive finalement en 1773 sous sa protection. En 1779, un autre de ses opéras les plus connus, il s'agit de Iphigénie en Tauride, obtient un grand succès à Paris. Mais la création successive d'une autre composition qui s'appelle Écho et Narcisse est un échec. Gluck en est affecté et déçu et quitte Paris pour retourner à Vienne où finalement il restera jusqu'à sa mort en 1787. De Christoph Willibald Gluck, nous allons écouter en premier lieu la symphonie référence Chen A1 WQ dans l'interprétation de l'Orfeo Baroque Orchestra sous la direction de Mickey Geig. Thank you. Et maintenant, deux extraits d'un de ses opéras les plus connus, dont je viens de vous parler juste avant, Iphigénie en Tauride. Nous allons écouter la scène 1 du premier acte, l'introduction donc, sous le titre « Grand Dieu, soyez-nous secourables ». Et maintenant, à suivre, la scène 1 du troisième acte sous le titre « Je cède à vos désirs ». Ces musiques de Gluck sont interprétées par Mireille Delunche dans le rôle d'Iphigénie et par l'orchestre, les musiciens du Louvre, sous la direction de Marc Minkowski. Thank you. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien.